Merci, monsieur le président du jury. Merci, monsieur le père recteur, pour votre disponibilité à accompagner notre candidate au cours de cette soutenance publique. C'est un honneur pour nous de vous avoir et de partager ce panel avec la sommité que vous êtes et la haute personnalité que vous représentez au sein de notre institution, Université catholique d'Afrique centrale. Je pense, me considère comme membre à part entière de cette université, parce qu'à l'époque, quand je venais de soutenir mon doctorat à l'Université de Yaoundé 1, le professeur Nkoum, par le biais du professeur Ngolikin, m'a accueilli ici et a fait de moi un membre à part entière de cette institution. Nous avons donc vu progressivement les premiers masters et aujourd'hui les docteurs. Nous faisons donc partie de l'équipe pédagogique de l'école doctorale de l'école des sciences de la santé. Je voudrais remercier M. le recteur qui est ici présentement avec nous pour l'ouverture qu'ils ont opérée pour leur université en accueillant les enseignants venant des autres universités, notamment les universités d'État. Je dois dire que c'est même ici que ma carrière a commencé, puisque je suis recruté en 2012, alors que ici, je commence à travailler en 2010-2011. Si j'ai aujourd'hui une carrière universitaire accomplie, c'est en grande partie grâce à l'Université catholique d'Afrique centrale. Monsieur le recteur, je vous remercie pour cela. Je voudrais remercier également le professeur Ngolikin et Julien, qui est une camarade de classe, parce que nous avons commencé à l'Université de Yaoundé 1 en première année. Nous sommes allés jusqu'en doctorat. Pourquoi je la remercie? C'est parce que c'est elle qui me propose de porter la candidate Meka, Larissa et Kanjana. À l'époque, je suis encore enseignant à l'université de Ngaoundéré. Vous voyez la distance, ça n'allait pas être facile. On s'est donc proposé de la porter à deux, elle étant sur place. Dieu faisant des merveilles. Quelques mois après, j'ai été transféré par une note du ministre d'État de l'enseignement supérieur à l'université de Bolova, avec résidence à Yaoundé. Les choses sont devenues donc faciles. Nous avions l'occasion de rencontrer notre candidate presque chaque semaine. Monsieur le président du jury, je puisse vous dire, c'est l'une des candidats, de mes candidates que j'ai le plus rencontré. Soit ici à l'université, soit à ma résidence. Elle y est arrivée, je ne peux pas vous dire le nombre de fois. Nous avons donc travaillé plusieurs fois et aujourd'hui je suis très heureux de la présenter devant cet auguste jury dans le cadre de la défense de cette thèse qui a été suivie pas à pas, jour après jour. Même étant sur le terrain, c'est une candidate qui chaque soir tenait à faire un bilan du journée, un bilan de la journée de travail, soit par écrit, soit par appel, soit par WhatsApp. On avait même créé un groupe WhatsApp. Nous, les deux encadrés et elle, on se partageait les informations. Donc, chaque soir, nous avions le compte rendu de sa journée de travail. C'était admirable à mon niveau. Ici, à Yaoundé, elle arrivait souvent à travailler avec nous jusqu'à 21h, 22h, pour une jeune fille qui doit quitter le quartier Biémassi pour rentrer chez elle. On avait souvent peur, monsieur le président du jury, au point où nous étions obligés de prendre souvent la version que nous avions traitée pour la consigner dans nos ordinateurs, parce qu'on avait peur d'une éventuelle agression au cours, pendant qu'elle était en route pour sa maison. Dieu merci. Tout s'est passé sans problème, elle n'a pas été agressée. Et aujourd'hui, je peux vous dire, monsieur le président du jury, que que c'est une candidate très sérieuse, très vaillante. Elle a été vraiment courageuse, persévérante. Elle a respecté les encadrés que nous sommes pour elle. Et comme je l'ai dit, j'ai le sentiment d'un père comblé. J'ai le sentiment du devoir accompli. Parce que lorsque l'université vous confie une étudiante pour conduire ses pas vers la recherche scientifique et que vous réussissez à atteindre le bout du tunnel, vous ne pouvez qu'être content et fier. Donc je voudrais aussi féliciter la candidate pour cette résilience, pour ce courage et pour son esprit de travail. Et surtout qu'elle est elle ne nous a causé aucun problème lorsqu'il fallait reprendre un exercice. Je vais prendre l'exemple de son dernier chapitre, discussion des résultats. Lorsqu'elle est arrivée avec ce chapitre, c'était un chapitre qui était très mal rédigé. Nous avons complètement rejeté. Nous avons dit comment se mettre une discussion dans un travail de recherche. Je vous rassure, monsieur le président, elle est rentrée sans être énervée, parce que ce jour, elle pensait qu'elle avait achevé sa thèse. Elle a dû reprendre ce chapitre à zéro pendant un mois avant de revenir le soumettre. Donc, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Jana, je m'appelle Jana, que les choses ont été faciles pour elle. C'était pas du tout facile pour elle. Donc, nous avions suivi rigoureusement la démarche scientifique, même si beaucoup de choses nous ont échappé. Je voudrais donc remercier ici le professeur Samé Kobe, Abel Legrand, professeur émérite, et le professeur Antoine Sopa, professeur titulaire et notre maître, pour tout ce qu'il a pu relever comme défaillance, comme limite dans ce travail. Je vais inviter la candidate. Bien, elle sera supervisée par nous, allez intégrer toutes ces remarques-là, toutes ces observations, toutes ces récriminations qui permettront substantiellement d'améliorer la qualité de sa thèse. Si jamais le jury la valide, cette thèse doit être déposée à la bibliothèque sous une forme impeccable afin de permettre à la future génération de s'en approprier et surtout de s'en déléter. Parce que son nom doit être ici inscrit sur la lettre, une lettre d'or. Et qu'on dise qu'ici est passée Larissa Mekanjana, qui a fait une thèse de très bonne facture et qui inspire les générations à venir. Voilà, monsieur le président du jury, ce que je peux dire sur la candidate. En ce qui concerne le sujet qu'elle a abordé, il s'agit d'un sujet actuel. Un sujet de santé publique majeur, parce que selon les chiffres, l'obésité au plan mondial représente 16% la prévalence. Au niveau de certains pays africains, l'obésité est de 31%. Au Cameroun, de manière générale, sa prévalence est de 11,4%. Mais là où elle a travaillé à Obala, elle est de 0,08%. Ce n'est pas parce que le chiffre est peut-être minime qu'on peut dire que le site n'était pas approprié. Parce que Obala aujourd'hui est une zone urbaine, comme disait le professeur Sokpa. Il y a des gens qui habitent Obala et qui travaillent à Yaoundé, et d'autres qui travaillent à Yaoundé et qui habitent Obala. On est à un taxi de 1000 francs à Obala. Entre les deux villes, il y a eu une urbanisation très accélérée, au point où pour voir même du terrain entre Obala et Yaoundé aujourd'hui, ce n'est pas évident. Donc, la revue Littérature, certains auteurs qui ont travaillé avec elle ont prétendu que l'obésité est un problème urbain. C'est dans les villes que l'on observe le plus ce phénomène-là. C'est pour cela que nous n'avons pas eu d'objection par rapport au choix d'Obala, une ville périphérique. Sur le plan de la démarche scientifique, monsieur le président du jury, nous avons insisté que notre candidate achète le matériel technologique, le matériel scientifique, le matériel médical pour pouvoir aller sur le terrain. Il n'était pas question pour elle uniquement d'aller interroger des personnes qu'elle trouvait obèses, non. Il était question de s'assurer que les personnes là sont effectivement obèses. C'est pour cela que une mètre de ruban, une pèse personne, une toise ont été achetées par la candidate. Elle s'assurait déjà d'abord que ces personnes étaient en surpoids selon l'indice corporel et qu'elles avaient vraiment une masse corporelle supérieure à la normale avant de les considérer comme des personnes obèses. Donc c'est une démarche scientifique qui a été approuvée par les séminaires, le cours des séminaires doctoraux qui ont eu lieu ici. Par ailleurs, je voudrais revenir sur la maladie. L'hypertension, l'obésité, est un état de morbidité, c'est un état morbide qui entraîne l'hypertension artérielle. Et vous savez vous-même ce que c'est que l'hypertension artérielle. Ça peut provoquer les AVC sur le plan physique. Il y a beaucoup de choses qu'elle a dites, notamment sur le plan, sur le plan mental. L'obésité entraîne une auto-stigmatisation des personnes, une faible estime de soi et même le diabète de type 2. C'est pour cela que nous pensons que l'hypertension artérielle qui est provoquée par l'obésité est un état de morbidité. Il y a donc un risque accru des cancers pour les personnes qui sont dans cet état-là. Il y a des problèmes de foie, il y a des problèmes articulaires, il y a la l'arthrose, il y a les cas d'incapacité, il y a les problèmes respiratoires. Donc pour nous, le sujet abordé par Madame Mekanjana est un sujet scientifique d'une importance capitale dans le domaine de la santé publique. Aujourd'hui, les gens banalisent l'obésité. Il y en a qui pensent que quelqu'un qui est obèse, je ne sais pas si on va dire obèse, ou bien quelqu'un qui vit avec l'obésité, est une personne qui se nourrit bien, qui mange bien, qui a beaucoup d'argent. Il y en a qui valorisent cela. Et d'autres, par contre, ont entrepris de combattre l'obésité avec des produits minceurs, avec du thé. Il y en a qui réduisent le nombre de repas, qui s'abstiennent de manger, mais qui, dans la soirée, mangent une cuvette de nourriture, ce qui aggrave la situation. Il y a donc aussi l'interdiction de certains repas. Tout ceci, monsieur le président du jury, se fait de façon désordonnée, au point où il a fallu, quand même, à travers cette étude de MECA, mettre de l'ordre dans la gestion de l'obésité chez les personnes qui sont exposées. Nous tous, nous sommes des personnes à risque, nous ne savons même pas moi particulièrement si je suis obèse ou pas. Peut-être que la candidate pourra prendre aussi des indices corporels pour me dire si je suis obèse ou pas. Je peux donc, monsieur le président du jury, dire que c'est vrai, on pourrait penser que le travail qui est ici présent est une reproduction des travaux qui existent déjà. C'est vrai, mais lorsque le problème est toujours récurrent, il faut continuer à mener des recherches parce que les problèmes sont toujours dynamiques. En plus, elle a ajouté la stratégie de prise en charge. Elle ne s'est pas limitée sur les facteurs, mais elle a avancé la réflexion sur les stratégies de prise en charge, même si ces stratégies-là ne sont pas abondante. On comprend ici que les personnes qui sont en état d'obésité, pour certains, s'orientent vers des praticiens pour combattre la maladie. C'est quand même l'un des résultats majeurs et innovants qu'elle a pu trouver sur le terrain et que nous avons encouragé. Donc, je voudrais pas monopoliser la parole puisque nous avons suivi ce travail à deux. Le professeur anglicain va continuer à dire ce qu'elle pense de ce travail. Mais avant de vous remettre la parole, il faut savoir que la gestion des représentations sociales de l'obésité dans la ville de Bala, et même peut-être dans plusieurs localités, est gérée de façon chaotique. Il y en a qui ne savent pas quoi faire. Il y en a qui ne savent pas où s'orienter. Il y en a qui pensent même que ce n'est pas un problème d'être dans cet état-là, jusqu'à ce que les conséquences fâcheuses surviennent. Parfois, c'est l'AVC fatal où l'on est obligé de soit de devenir invalide, donc à la charge de la société, soit alors de mourir et de laisser de la famille dans le désarroi. Donc, je pense que cette étude est une étude majeure que nous ne pouvons pas généraliser sur l'ensemble du pays. Nous avons souhaité, elle a dit dans ses conclusions, que nous souhaitons que cette étude soit menée sur l'ensemble du territoire pour mieux valider les résultats et proposer des solutions adéquates qui se posent afin que l'obésité soit traitée avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité et beaucoup d'engagement. Elle a donc attiré ici, monsieur le président du jury, l'attention des décideurs, l'attention des personnes, donc de tout le monde, sur les risques que nous encourons à être au bénéfice des conséquences qui surviennent face à cette situation. C'est un appel urgent et crucial. Et je pense tout simplement que cet appel sera entendu. Nous n'avons pas la prétention d'avoir guidé notre candidate sur le chemin de la perfection. Nous pensons que nous avons essayé de la mettre sur les rails afin que les futures recherches qu'elle va mener soient menées avec beaucoup de succès. Et les conseils du professeur Sokpa pour nous sont indiqués donc que la candidate les assimile, que la candidate se les approprie pour que sa carrière de chercheur, sa carrière de consultant, sa carrière d'enseignant soit meilleure. Monsieur le président du jury, je n'ai pas de questions à poser à notre candidate, mais sinon, je suis fier de votre présence ici. Je suis fier de l'intervention des éminents professeurs de France avec vous, qui ont contribué à rehausser la qualité du débat scientifique au cours de cet exercice académique. Ceci dit, monsieur le président du jury, le père recteur, je vous remets la parole.